Alors, voilà maintenant quelques questions en lien avec le monde invisible. D'abord, avant de débuter cette période, une précision. Quand on regarde le contexte de la révélation progressive de Dieu, il me semble juste de faire attention à la manière en fait dont on fonde une doctrine. Et puis, voilà ce que je veux exprimer. Je voulais partager dans un texte. Il ne faut pas fonder une doctrine chrétienne, c'est-à-dire pour les croyants de l'Église spécifiquement, uniquement, hein, j'entends uniquement dans un texte de l'Ancien Testament, les Évangiles, oui, même les Évangiles et les Actes des apôtres. Si on tient compte de la révélation progressive de Dieu, l'Église n'existait pas à l'époque de l'Ancien Testament, ni dans les Évangiles d'ailleurs. Elle est annoncée de façon prophétique dans plusieurs passages, mais elle n'existe pas encore. Et quand on arrive dans le livre des Actes des apôtres, eh bien, elle débute en Acte 2, l'Église, mais elle se trouve en plein développement dans ce livre-là. Et le livre des Actes des apôtres est un livre historique qui raconte l'histoire et qui couvre une période qu'on peut appeler transitoire dans la révélation de Dieu. On passe en quelque sorte de l'ancienne à la nouvelle alliance du peuple d'Israël aussi à l'Église. Ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament, les Évangiles ou les Actes n'ont rien à voir avec l'Église. Ce n'est pas le fait. Au contraire, on voit très bien que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour beaucoup de choses. Et ces livres-là ont quelque chose à nous enseigner, nous, les croyants de l'Église. Mais il faut faire bien attention de comprendre le développement de toute doctrine avant d'en tirer des conclusions pour l'Église. Et d'une manière particulière, les doctrines chrétiennes, donc pour l'Église, vont atteindre leur plein développement ou atteindre leur point culminant dans les Épîtres. C'est super important qu'on réalise cela parce que c'est dans les épîtres apostoliques qu'on trouve la saine doctrine pour l'Église, qui va déjà avoir été inaugurée ailleurs dans la révélation antérieure, mais qui va atteindre son plein développement dans les épîtres. C'est avec cette importante mise au point-là que maintenant nous allons aller de l'avant et essayer de répondre à certaines questions qui peuvent préoccuper parfois des chrétiens. La première question est la suivante. Les chrétiens peuvent-ils être possédés par des démons ou, à l'inverse, sont-ils à l'abri de toute attaque démoniaque? Donc, ce sont deux extrêmes de toute évidence. Il faut bien comprendre le phénomène de possession démoniaque tel qu'il est présenté dans les Écritures. Une possession démoniaque, c'est quand un démon entre guillemets, entre dans une personne afin de la contrôler. C'est comme si le démon élisait domicile dans cette personne afin d'exercer une certaine influence sur sa vie. C'est un peu ce que j'essaie de représenter dans ce graphique. Donc, personne noire, c'est un démon là, qui élit domicile. Donc, quelqu'un qui serait possédé d'un démon, ça ressemblerait un peu à ça, dans ce sens que le démon est entré en la personne dans le but de contrôler certains aspects de sa vie. Mais les chrétiens sont décrits spécifiquement dans la Bible comme étant déjà habités par le Saint-Esprit, que je représente ici de cette façon. Et à cause de ce phénomène, eh bien, il me semble qu'une cohabitation avec des démons, ce n'est pas possible. C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit a élu domicile dans nos vies, dans nos cœurs, il est là, il ne peut pas cohabiter avec des démons. Et il y a des textes qui évoquent ce principe-là, comme par exemple 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Remarquez ce qui est dit ici. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou Béliard? Selon les traductions qu'on a, mais en fait, c'est une personnification du diable. Et en fait, quand on regarde tout le passage des versets 14 à 18, c'est un texte qui souligne un principe très clair que deux entités opposées ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et ça, c'est vrai dans le monde spirituel aussi. Et je crois que ce principe-là s'applique exactement À la question de la possession démoniaque d'un croyant. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. Et là, on a d'autres passages là, qui, franchement, vont consolider cette pensée comme ce que représente ce graphique maintenant, c'est tout simplement 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en vous, c'est le Saint-Esprit, ou c'est le Seigneur par l'Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez le jeu de grandeur que j'ai voulu démontrer et que le diable est à l'extérieur ou le démon est à l'extérieur. On ne peut pas être possédé par des démons, ce n'est pas possible. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On voit encore dans cet épître de Jean, chapitre 5, verset 18, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et toucher ici a un sens là, d'agripper, de mettre la main dessus, là. Donc, il va peut-être même dans ce sens-là où le malin a une limite dans ce qu'il peut faire et il ne peut certainement pas posséder un croyant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, il me semble que c'est clair que, bibliquement parlant, même si un croyant ne peut pas être possédé par des démons, il peut quand même être tourmenté par des démons ou par le diable lui-même. Donc, c'est clair que dans l'Écriture, des croyants peuvent être tourmentés et peuvent se faire infliger différents maux par le monde spirituel mauvais. Mais il faut souligner, et c'est important de le dire, que Dieu reste toujours en plein contrôle de la situation et que le monde des ténèbres doit avoir la permission de Dieu pour agir. Parce que franchement, s'ils pouvaient prendre possession de croyants et les malmener comme ils veulent, ça remettrait en question ce qu'on peut appeler le droit de propriété du Seigneur sur nos vies. Regardez ce texte dans les Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il me semble que ce verset-là vient de clore la question et c'est évident que le diable ne peut rien faire autrement que de demander la permission à Dieu de tourmenter des croyants. Ça, il le fait, il peut le faire et Dieu peut le permettre selon ses plans souverains, mais toujours sous son contrôle. On le voit d'ailleurs dans les attaques contre Job. Satan avait dû recevoir la permission avant. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et un peu plus loin, chapitre 2, verset 6, épargne sa vie. Et ça, c'est un commandement qui est très, très, très clair, là. Il ne peut pas outrepasser cela. Et pour nous, nous avons aussi d'autres promesses en lien avec, en fait, en lien avec les différentes épreuves qu'on peut vivre, incluant les attaques du diable ou du monde spirituel contre nous. Je pense à ce beau texte de promesse, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, on peut avoir l'assurance que le monde spirituel n'ira jamais au-delà de ce qu'on peut supporter. Mais attention, hein, parce que parfois on se dit, ah ben ça veut dire que ça n'ira jamais trop loin, en fait. Ça va juste faire mal un peu, puis après c'est fini. Désolé, non, c'est pas ça. Ça peut même être la mort parfois. Ça peut même être la mort. Mais Dieu, même s'il permettait cela pour certains, il va donner la force de le supporter jusqu'à la fin. On le voit dans ce texte d'Apocalypse. Regardez ce que ça dit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, on voit clairement que le monde spirituel mauvais ne peut pas posséder un croyant. Et ne peut pas l'attaquer si ce n'est que selon la permission de Dieu et ne peut pas outrepasser les mesures que Dieu donne. Et en même temps, nous avons l'assurance dans la parole de Dieu de recevoir toute la force nécessaire dans la mesure, évidemment, qu'on se place en dépendance du Seigneur, qu'on dépend de lui, qu'on reçoit, tu vois, ce moyen d'en sortir. Eh bien, nous avons de telles promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Parfois, Un démon, peut-être par le biais d'une personne méchante, peut s'attaquer à un croyant pour différentes raisons. Il y a ce beau texte dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9 que nous lisons. Et afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde dans la chair, virgule, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié trois fois le Seigneur afin qu'elle se retirât de moi. Quelle, c'est l'épine dans la chair, là, ou l'écharde dans la chair. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Et en fait, l'écharde dans la chair est décrit par apposition, donc c'est un phénomène de syntaxe, hein? C'est-à-dire qu'on sépare par une virgule deux choses qui se réfèrent à la même chose, en fait, deux expressions qui se réfèrent à la même chose. L'écharde dans la chair est décrite comme un ange de Satan ou un mot ange, c'est angelos qui signifie un messager de Satan. Le messager peut être humain ou il peut être angélique, mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui troublait ou tourmentait l'apôtre Paul. On ne sait pas de quelle manière. Est-ce que c'était Alexandre le forgeron qui lui causait toutes sortes de soucis, qui s'opposait à lui? Est-ce que c'était des gens qui le frappaient physiquement? Est-ce que c'était un démon qui l'angoissait, qui le tourmentait? On ne sait pas. Mais il y avait un messager satanique qui était là pour maltraiter Paul afin qu'il ne devienne pas orgueilleux. C'est quand même, quand même intéressant de voir que Dieu, dans sa souveraineté, peut utiliser le monde méchant pour un but louable, c'est-à-dire éviter que Paul ne développe de l'orgueil dans son cœur. Ça me rappelle Maurice Decker qui avait dit un jour dans une conférence, le diable est comme un linge de mécanicien tout plein de graisse, là, tout sale, avec lequel, à la fin de sa journée, le mécanicien nettoie ses outils. Puis ça fonctionne, hein? Je fais ça dans mon garage. Parfois, je travaille, je fais un peu de mécanique sur ma voiture, je répare des petites choses. Et puis là, à la fin, je prends ces guenilles qui sont toutes sales ou ces linges, ces chiffons, là, des pattes pour certains. Et puis là, je nettoie ça et ça fonctionne. Ben, c'était une belle image pour dire, ben, le diable, il est comme ça, ce linge sale, souillé, que Dieu peut utiliser même pour purifier ses enfants. Hein? C'est le cas de 2 Corinthiens 12, comme on le voit ici, où Dieu a permis qu'un ange de Satan tourmente Paul dans un but préventif pour éviter qu'il devienne orgueilleux suite à l'excellence ou l'extraordinaire de révélation qui lui avait été accordée. Moi, je n'ai aucun doute que ce soit physique, moral, spirituel, je n'ai aucun doute que Paul a dû souffrir de ces attaques-là. Mais Dieu lui avait aussi donné la force de supporter tout. C'est sa grâce. Il le dit ici aussi, ma grâce te suffit. Ça me fait penser à ce texte dans les évangiles, en fait, dans Luc 22, où le Seigneur Jésus dit à Pierre, et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan vous a demandé plutôt à vous avoir pour vous cribler comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc, en utilisant cette image de l'agriculture, mais une image de vous secouer violemment, quoi. Il a demandé à vous éprouver durement, quoi. Il voulait s'en prendre à vous. Et le Seigneur ne dit pas, mais je lui ai interdit. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, j'ai mis une limite, hein, et puis je priais pour toi. Et on peut être certain que la prière du Seigneur, elle, est très efficace. Et donc, que sa foi reste solide, malgré tout. Des textes qui sont très clairs sur la possibilité d'attaque du monde invisible. Et d'ailleurs, on en trouve plusieurs autres. Je vous en partage quelques-uns. Dans 2 Corinthiens 2 au verset 11, dans la Nouvelle Français Courant, afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous connaissons en effet fort bien ses intentions. Donc, on est lucide, là. On sait très bien que le diable, il n'aime pas l'œuvre de Dieu. Il n'aime pas les chrétiens. Il n'aime pas l'évangélisation. Il n'aime pas la sainteté. Il n'aime pas vos décisions que vous prenez pour la gloire de Dieu et il attaque. Mais on doit avoir confiance au Seigneur. Il a prié pour nous comme il l'a fait pour Pierre et les apôtres. Et le Seigneur nous donne toujours sa grâce comme il l'a fait pour Paul aussi. On voit l'importance du combat spirituel dans Éphésiens 6, 11, 12, dans la seconde 21 cette fois. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et puis, encore un autre passage dans 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Et on a sensiblement la même traduction dans la Bible annotée et dans la Nouvelle Français Courant. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant à dévorer quelqu'un. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères et sœurs dans le monde entier endurent les mêmes souffrances. Donc, on va conclure ce point en disant de façon très claire, impossible d'être possédé par un démon, mais par contre, oui, il est possible, voire même probable, que nous subissions tôt ou tard des attaques du monde spirituel mauvais, mais ayons confiance en la grâce de Dieu qui suffit et aux moyens d'en sortir que Dieu va nous accorder. Il prie pour nous, il intercède pour nous et nous pouvons avoir pleinement confiance en notre Sauveur. Deuxième question. Satan et les démons ont-ils accès au ciel? Eh bien, quand on regarde l'évidence biblique, il est assez clair que Dieu tolère la présence de Satan et des démons dans le ciel encore aujourd'hui. On a plusieurs textes qui nous l'affirment très clairement et j'ai fait un résumé des différents passages qui sont notés ici-bas. Et soyez pas inquiets, dans vos notes de cours, vous avez tout en détail. Il n'y aura pas de souci. Vous n'avez pas besoin d'essayer de noter tout ça. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Moi, je comprends par là que ce sont les fils de Dieu, des anges déchus, mais MacArthur pense que ce sont de bons anges. Et vous lirez sa note, très intéressante. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. C'est vrai parce qu'il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout à la fois. Il se promène. Il parcourt la terre. Ensuite, on voit nos textes. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. Bien que ce soit dans un contexte de vision, la scène se passe dans le ciel, comme celle qu'on vient de voir aussi avec les fils de Dieu qui viennent devant l'Éternel dans le ciel. Un autre texte qui va dans le même sens, on voit que nous avons à lutter contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Intéressant dans les Éphésiens, parce que c'est aussi la place où nous sommes assis en Christ, dans les lieux célestes. Et donc, le monde spirituel mauvais a accès là-bas et c'est contre ce monde méchant que nous avons à lutter. Et encore, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et donc, ce texte-là, de même que celui qui suit, il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, montre qu'il est expulsé du ciel. Donc, c'est vrai que il y a un moment où Satan n'aura plus accès au ciel et là, sa rage va être au maximum. On le voit très clairement, mais ce seront en fait ses derniers efforts avant qu'il soit jeté dans l'étang de feu. Un peu à l'image de ce que le diable fait contre le souverain sacrificateur Josué. Hein, ce n'est pas le Josué, le successeur de Moïse, c'est un souverain sacrificateur qui vient plus tard. Eh bien, qu'est-ce que fait Satan dans le ciel? Il l'accuse. Ce Josué-là. Eh bien, le diable accuse aussi les chrétiens de péché. C'est vrai, c'est ce qu'il fait. Puis probablement que trop souvent, malheureusement, il a raison. Mais il faut confesser le péché et se relever et arrêter de lui donner raison quelque part aussi. Mais on a l'assurance, selon ce texte, que le Seigneur Jésus est là pour nous secourir, même si le diable a raison de nous accuser. On voit très clairement que Jésus est là comme notre avocat, ce que j'ai voulu représenter dans ce symbole. Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur ou un avocat, un paraclète en grec, auprès du Père Jésus-Christ qui est juste. Ça, c'est la nouvelle Bible seconde qui dit ainsi ce verset. Donc, Jésus intercède pour nous. Il nous justifie par son sang de toute accusation et c'est Jésus qui ferme la bouche au diable dans le ciel. Il ne peut pas aller plus loin. Mais il est important pour nous sur la terre de confesser les péchés, pas de chasser des démons de nos vies, mais plutôt de confesser le péché, l'abandonner et rester dans la communion de Christ. Voilà la solution que nous avons pour lui. Ce qui m'amène justement à cette question très importante et qui préoccupe beaucoup de croyants. Les chrétiens ont-ils l'autorité de chasser des démons? D'un point de vue de la Bible, d'un point de vue de ce que la Bible elle-même nous dit, eh bien, les Écritures démontrent que Christ, les apôtres et aussi quelques disciples envoyés en mission pour Christ dans les évangiles ont chassé des démons. Apparemment, il y avait aussi certains juifs qui prétendaient posséder ce pouvoir et on en a une petite idée dans ce texte de Luc 11, verset 19, où Jésus dit ceci. Or, si c'est par Béelzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? Bon, le texte a un contexte tout à fait particulier. Les ch chefs religieux juifs venaient de rejeter la puissance de Jésus comme étant celle par l'esprit en l'attribuant au diable dans la personnification de Béelzébul. Et là, Jésus pose cette question, qui est une question en fait qui exprime un raisonnement logique. Jésus n'est pas en train d'affirmer de façon claire que les Juifs avaient des enfants qui chassaient des démons. Ce n'est pas le point. C'est plutôt un raisonnement logique. Je vais paraphraser pour que vous puissiez comprendre mieux cette phrase. Je le pense. Si moi-même je chasse des démons par Satan, il faut donc en conclure que c'est aussi ce que font vos fils quand ils prétendent les chasser, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi ce serait différent? Alors, c'est plutôt un raisonnement logique que Jésus présente ici en disant cela. Mais en fait, on a un texte dans les Actes qui nous montre que les prétentions des Juifs à chasser des démons parce qu'ils affirmaient le faire hein, avec leur fils, eh bien, c'était faux. On le voit dans ce passage des Actes des apôtres, Actes 19, versets 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ça ressemble au langage des chasseurs de démons d'aujourd'hui, ça. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Ils ont subi toute une râtelée, ceux-là qui prétendaient avoir le pouvoir de chasser des démons. Mais en fait, quand on lit ce texte-là, ça démontre que ces prétentions-là étaient fausses, et ils en ont payé le prix, mais pas à peu près. Par contre, Christ chasse des démons, ça, il n'y a aucun doute, et il le fait pour confirmer son identité de Messie, mais aussi pour l'accomplissement des prophéties en lien avec sa première venue. Ce texte-là est parfaitement clair. Regardez Matthieu 8. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus a chassé des démons et guéri des gens pour accomplir la prophétie d'Ésaïe, pas pour établir une norme, pas pour dire à tous les chrétiens par la suite, vous ferez de même, hein? Vous pouvez faire la même chose. Jésus l'a fait après tout, mais pas du tout. Ce texte-là est un texte d'Ésaïe, en fait, c'est une prophétie d'Ésaïe, comme le dit très bien Matthieu, qui devait être accomplie. Et quand Jésus l'accomplit, il confirme son identité de celui qui était prophétisé dans Ésaïe. C'est simplement, comment je dirais, c'est simplement que Jésus est en train j'allais dire connect the dot là, en anglais, relier les points, là, comme les dessins, là, c'est que des points, puis on fait que les relier, puis ça donne une image. Mais en fait, Jésus a relié les points. Il a relié les prophéties de l'Ancien Testament avec son ministère public et ainsi, on a eu l'image complète, le Messie est devant nous. C'était ça le but. C'était clairement dit ici. Les apôtres et quelques disciples, ceux qui sont envoyés en mission, ont aussi chassé des démons. On le voit ici, allez prêcher et dites, ça c'est l'ordre premier, hein. Prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Chassez des démons. Donc, en fait, les exorcismes, si on peut les appeler comme ça, vont confirmer la prédication qu'ils sont en train de présenter. Les 70, ou bon, c'est dit comme ça, les 70 ici, revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc, pour les apôtres et pour les disciples, particulier, hein, pas tous les disciples, ceux-là qui sont envoyés en mission, les 70, là, eh bien, le pouvoir de chasser des démons était temporaire et accompagnait la prédication de l'Évangile. C'était certainement comme signe de confirmation de leur message. C'est ce qu'on voit dans ce texte. Ça n'a rien à voir avec une norme établie. Mais on peut dire de façon très, très claire qu'on ne trouve aucun verset, aucun. Il y a des versets qui racontent les choses, mais aucun verset qui exhorte le chrétien à chasser des démons dans l'Église aujourd'hui. Et franchement, vous vous rappelez mon point du départ? Pour répondre aux questions, on ne peut pas fonder des doctrines uniquement sur un texte des évangiles. Et là, c'est le cas, là, parce que beaucoup de soi-disant chasseurs de démons qui font ça, ils s'appuient sur Matthieu 8, puis ils disent, voilà, il faut faire pareil. Mais en fait, l'absence de commandement direct à chasser des démons dans les Épîtres, c'est notoire. Pourquoi il n'y a aucun verset dans les Épîtres, là où on a l'enseignement apostolique et autoritaire pour l'Église de chasser des démons, pourquoi ce n'est pas là? Bien, ça doit nous amener en quelque part à réfléchir profondément. Par contre, alors, on a des instructions claires pour le combat spirituel, mais le combat spirituel du chrétien de l'Église n'a rien à voir avec le fait de chasser des démons. Voici les fondements du véritable combat spirituel. Là, je vais mettre le résumé de trois textes dont vous allez voir la référence à la fin. Voici ce que la Bible nous dit. Premièrement, résister et fuir. Pas attaquer. Jamais la Bible nous dit attaquer le monde spirituel. Un peu comme ces espèces de chasseurs d'esprits territoriaux là, qui rentrent dans un village. Là. On vient ici, puis on chasse tous les démons du village et après on évangélise. Ça ne vient pas de la Bible, ça. Pas du tout. On doit plutôt résister, fuir et ne pas attaquer. Ensuite, la repentance. Voilà une arme spirituelle très puissante contre le monde spirituel mauvais. L'humilité, la vérité. De dire les vraies choses, d'être humble, le contraire de l'orgueil. L'orgueil, c'est le péché du diable. Faites tout le contraire, vous êtes un excellent combattant spirituel. Dites la vérité. Pas seulement que la vérité de la parole de Dieu, mais dites la vérité. Soyez intègre, dites les vraies choses. La justice, faites ce qui est juste. La paix, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela est possible. La foi, ayez confiance. La persévérance, lâchez pas, hein? Attachez-vous fermement à la parole de Dieu. L'assurance du salut qu'on trouve dans les Écritures, c'est une arme spirituelle qui nous empêche d'être découragés ou de nous écrouler sous les attaques du monde méchant et la prière aussi. En fait, toutes ces armes nous parlent du combat spirituel tel qu'on le voit dans Jacques 4, 7, 1 Pierre 5, 9 et Éphésiens 6, versets 13 à 18. Ça, ce sont des textes qui viennent des Épîtres et qui nous parlent du véritable combat spirituel et quels en sont les fondements. Donc, ça m'amène à conclure que le chrétien dans l'Église n'a pas l'autorité de chasser des démons aujourd'hui. C'est s'approprier un pouvoir qui est réservé exclusivement à Christ, aux apôtres et aux disciples envoyés en mission devant lui, comme des délégués apostoliques, en fait. Mais aucun verset ailleurs ne nous encourage, ni même dans les Actes, ni dans les Épîtres, ni dans l'Apocalypse, à chasser des démons. Par contre, il est possible qu'on soit appelé à intervenir pour la délivrance d'une personne démoniaque. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On chasse des démons? Non, pas vraiment. On s'adresse au Seigneur dans la prière et non pas aux démons. Écoutez, moi personnellement, je préfère ne pas parler avec des démons, même pour les chasser. Je préfère ne pas m'adresser au monde spirituel invisible, mauvais. J'aime beaucoup mieux parler au Seigneur, hein. Il est le Seigneur, il est le souverain, il est le maître, il est le sauveur, il est le rédempteur, il est le délivreur, si je peux dire. Alors, Christ est la solution à tout. Je préfère de loin m'approcher de lui que d'essayer de prétendre que j'ai un soi-disant pouvoir pour chasser des démons. Bon, maintenant, ah oui, il y a des expériences où sont arrivées que apparemment des gens, ont été délivrés parce que quelqu'un a chassé des démons. Je dirais que c'est plutôt arrivé malgré les gens. Parce que Dieu est un Dieu si bon et de grâce. Mais en tant que chrétien, pourquoi ne pas chercher le modèle biblique, appliquer ces fondements qu'on a sous les yeux dans nos vies et prier et s'adresser au Seigneur pour la délivrance des gens aux prises avec un esprit mauvais? Et là, je vais faire une parenthèse, hein, puis écoutez-moi bien, c'est trop important. C'est très dangereux de suggérer à une personne qu'elle pourrait être possédée par un démon. Vous pouvez nuire psychologiquement d'une manière irréparable à quelqu'un. Ne faites pas ça. C'est très difficile pour nous d'avoir l'assurance que la personne qui est en face de nous est vraiment possédée d'un démon. Et les gens là, qui prétendent chasser des démons aujourd'hui, ils brisent des âmes, ils dérangent des gens, ils peuvent causer des lésions psychologiques irréparables par la suite. La personne peut être traumatisée à vie. Ne faites pas ça. Je vous en supplie. Vous allez briser des gens pour rien. Si vous pensez qu'une personne est aux prises avec un démon, premièrement, il faut que la personne elle-même reconnaisse qu'elle a un sérieux problème. Ce n'est pas à vous de prétendre discerner qu'il y a un démon dans la personne. Il faut que la personne elle-même soit en mesure de savoir qu'il y a un problème. Et il faut qu'on prie le Seigneur et s'adresser à lui pour cette personne, mais sans lui suggérer qu'elle a forcément un démon. Soyez sage, soyez très, très sage. Vous pouvez briser des gens de façon irréparable. Et en terminant sur cette question, il est assez remarquable que le Seigneur déclare, écoutez bien ça aussi, c'est très important, il est assez remarquable que le Seigneur déclare lors du jugement dernier que des gens seront condamnés malgré leur prétention d'avoir chassé des démons. Et moi, quand je lis ça, je tremble pour ceux qui prétendent chasser des démons aujourd'hui, en sachant que la Bible ne nous donne pas du tout l'autorité de faire ça. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ces textes-là suggèrent même que ça, c'était vrai, hein, mais à premier regard. Mais on peut le voir d'un autre coup d'œil. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et le Seigneur va leur dire ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, l'injustice. C'est injuste ce que vous avez fait, en fait. Est-ce des gens qui ne sont pas sauvés, hein? Qui vont aller en enfer pour l'éternité. Le Seigneur ne les a jamais connus. Il me semble que là, on devrait trembler là, dans nos pantalons en lisant un texte comme celui-là, devant le phénomène très populaire de chasser des démons dans le monde aujourd'hui. Ça me fait peur. Franchement, quand tu n'as pas de fondement biblique pour faire ça, quand, comme on vient de le voir, quand tu as toutes les armes, les vraies armes pour combattre, et que tu persistes quand même, écoute les avertissements, s'il te plaît, de la Bible, là. Il me semble que c'est trop important. Les chrétiens ont-ils des anges gardiens? Je regarde, là, il me reste encore deux questions. Je vais essayer de ne pas être trop long. Mais je crois, préparez-vous, on va déborder ce soir, c'est presque sûr. Il y a à peu près, je pense que je vais en avoir pour 3 jours à répondre des questions par la suite. Alors, préparez-vous à ce qu'on déborde un tout petit peu, s'il vous plaît. Soyez patients ce soir. Ça, c'est une idée populaire qui vient en partie d'un verset dans l'Évangile selon Matthieu, donc le texte de Matthieu 18, verset 10, qui nous dit ceci, Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, c'est le Seigneur qui parle, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Premièrement, le mot ange ici est utilisé d'une manière collective et pas personnelle. C'est une manière collective en tant que serviteur de Dieu à l'égard de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire les petits dans ce passage. Les petits ici, ce n'est pas des enfants, hein, en passant. Ce n'est pas un texte qui parle d'ange gardien pour des enfants, là. Les petits, c'est dans un langage figuré hyper clair de Matthieu, ce sont des croyants, en fait. Ce sont des enfants de Dieu, tout simplement. Et on voit dans Hébreux 1, verset 14, que les anges sont des esprits serviteurs envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Donc, en réalité, ce verset de Matthieu dit la même chose que celui d'Hébreux, c'est que le Seigneur utilise les anges dans différents services à l'égard de ceux qui vont hériter le salut, c'est-à-dire les croyants. Donc, ce sont des serviteurs que Dieu utilise simplement dans ses plans souverains. C'est tout ce que ce texte-là veut dire. Il ne parle pas d'un ange attribué à une personne en particulier. On peut lire le texte qui apparaît maintenant. Dans les évangiles, des anges sont envoyés comme messagers en songe, on le voit dans Matthieu 1:20, ou en personne. Ils assistent le Seigneur Jésus après sa tentation. Ils le fortifient dans son agonie à Gethsémané. Il symbolise l'accès à Dieu par Jésus-Christ avec la vision de l'échelle là, qui touche au ciel et à la terre. Et ils exercent aussi de façon générale différents rôles dans les événements qui entoureront le retour du Seigneur. On le voit entre autres, mais il y a beaucoup d'autres textes dans Matthieu 13 et aussi dans 2 Thessaloniciens. Donc, c'est vrai qu'ils vont jouer un rôle important, différent, à l'égard des croyants, mais Dieu le fait d'une manière souveraine et la plupart du temps complètement inconnue aux croyants, en ce sens que c'est le monde invisible. Alors, Dieu utilise le monde invisible pour le bénéfice de ses enfants, mais tout simplement selon sa souveraineté et sa liberté de faire les choses telles qu'il le veut. On voit dans le livre des Actes, par exemple, vous avez toutes les références ici, plusieurs passages où on peut constater un ministère angélique à l'égard des croyants. On le voit ici qu'un ange du Seigneur a ouvert la porte pour faire sortir les croyants de la prison. Un ange du Seigneur qui a dirigé Philippe en chemin. Là, tu sais, dans ce cas-là, c'est des apparitions visibles. Un ange de Dieu qui est entré chez Corneille. Un ange du Seigneur qui a libéré Pierre de la prison, même en touchant son côté. Et aussi un ange de Dieu qui est apparu à Paul à un moment donné pour lui transmettre un message d'encouragement. Donc, on constate qu'il y a des ministères angéliques, soit conscients ou inconscients, dans les Écritures. Mais en aucun cas, la Bible nous dit de chercher à expérimenter ces choses, de les vouloir ou de prier même Dieu pour qu'il fasse ces choses en lui disant, Seigneur, envoie tes anges faire ceci ou Seigneur, envoie les anges faire cela. Je ne vois pas ça dans les Écritures. Tout ce que je constate, c'est que Dieu souverain utilise les anges comme il le veut. Ensuite, les anges de Dieu sont de véritables observateurs des œuvres de Dieu parmi les hommes, donc toujours en relation entre les hommes et les anges. On voit plusieurs textes qui sont mentionnés ici qui parlent des anges comme des spectateurs, quoi, ou des observateurs de ce qui se passe parmi les hommes, et je dirais en particulier dans l'Église, parce qu'il y a un ordre rétabli, il y a un rétablissement des choses dans l'Église. C'est l'histoire de la rédemption qui s'accomplit. Mais à nouveau, il y a beaucoup de choses difficiles à comprendre là-dedans. Et le fait est simplement de nous informer, de nous dire, Dieu est à l'œuvre. Il utilise même le monde angélique bon pour le bénéfice de ses enfants. C'est un encouragement pour nous. Ce n'est pas une motivation à demander ces choses, par contre. Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Constatation de Paul. Il dit, nous les apôtres, tout ce qu'on a souffert, tout le monde est au courant, même le monde spirituel. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Une sœur me partageait il y a quelques semaines qu'elle portait le voile en particulier parce qu'elle se sent consciente que les anges observent l'ordre rétabli dans l'Église. Et voilà pourquoi elle a cette conviction profonde du port du voile. Et moi, je respecte ça, mais au plus haut point, le texte pose certaines difficultés de compréhension, mais avec une telle conviction dans le cœur. Mais c'est merveilleux, gloire à Dieu. Voilà, parce qu'on veut honorer le Seigneur devant le monde spirituel, en fait. C'est ce que la sœur me partageait. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est un autre texte qui nous informe que les anges observent et découvrent à quel point Dieu est sage. En quelque part, ça doit être plutôt une motivation pour bien nous conduire, hein, pour qu'on reflète bien aussi la rédemption de Dieu dans nos vies. Et finalement, à Timothée, Paul va dire, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. Et on pense en particulier à l'incarnation, de Christ. Alors, ces textes-là sont en fait probablement les quatre passages qui vont dans ce sens où ils sont des observateurs, de l'Église. Par contre, en aucun cas, et je le répète, on ne trouve, à ma connaissance, un texte qui enseigne aux chrétiens à demander l'aide ou la protection des anges. Surtout pas s'adresser à eux directement, hein. Franchement, on connaît le Créateur des anges et on a un libre accès à lui. C'est à lui qu'il faut aller plutôt. D'ailleurs, on le voit avec le trône ici, c'est juste une image, mais approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pouvez-vous aller plus près de Dieu que là? Les anges, là, sont des subalternes, hein, sont soumis, sont des créatures, là. Oui, ils sont au-dessus de nous, mais de par leur nature angélique, céleste, spirituelle et étant dans le royaume directement, mais franchement, on connaît leur créateur. C'est à lui qu'il faut aller. Pourquoi? Pour trouver miséricorde et trouver grâce et pour être secouru dans nos besoins. Cherchez pas le secours des anges. S'il vous plaît, ce serait presque une insulte à Dieu, ça. Cherchez plutôt à aller vers le Seigneur et c'est vers lui que nous sommes exhortés à aller. Et ça m'amène au dernier point. Quelle est la bonne attitude au final à l'égard du monde invisible? Ben, la réponse, c'est l'équilibre. L'équilibre. Il ne faut pas ignorer le monde spirituel dans le sens d'en être conscient. Je suis conscient du monde spirituel, je n'oublie pas cette réalité. Mais il ne faut pas non plus y porter une trop grande attention dans le sens d'en être constamment préoccupé. On dirait que pour certains chrétiens, il n'y a que le monde spirituel qui occupe leur pensée, là. Ce qui se passe dans le monde spirituel mauvais, les anges qui interviennent, etc. Est-ce qu'on peut revenir dans la réalité un peu? On est sur Terre pour rendre témoignage aux hommes de l'évangile de Christ, hein, à nos semblables, et puis on a une relation directe avec Dieu le Père et Dieu le Fils, on peut aller directement à eux. Ben, entre les deux, Dieu, lui, selon sa grâce souveraine, peut utiliser les anges. Mais ça, ce n'est pas notre domaine. Ça ne devrait même pas, en fait, nous préoccuper à ce point de dire, ben voilà, mes pensées sont entièrement là-dessus, franchement. Donc, voilà pourquoi on parle d'équilibre. Vous savez que ça dégénère rapidement, hein, quand on porte trop attention aux anges. Et puis même à l'époque de Paul, là, il y a eu un culte des anges. Bon, peut-être que là, vous dites, non, mais il est malade, ce gars-là, il exagère, franchement, en parlant de moi, hein, pas de Paul, assurez-vous de bien me comprendre, là. Dans le sens où on n'adore pas les anges. Le culte des anges n'est pas forcément une personne qui se met à genoux devant des anges qu'il ne voit pas ou qu'il pense voir pour lui apporter l'adoration. Le culte des anges peut être beaucoup plus subtil. Trop être préoccupé par les anges peut devenir un culte des anges. Donc, Paul dit, là, faites attention là, à ces gens là, qui prennent plaisir aux pratiques extérieures et il ajoute au culte des anges. Donc, il y avait déjà à l'époque de Paul des gens qui s'occupaient un petit peu trop à son goût des anges. Les anges, d'ailleurs, ils n'aiment pas tellement cette approche et puis ils vont déplorer cette situation. On voit que Jean, hein, dans l'Apocalypse, il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer et l'ange réplique tout de suite, hein, garde-toi de le faire. Regardez ce que dit l'ange. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Donc, en fait, c'est la même chose dans vers chapitre 22, versets 8 et 9. L'attention doit être vers Dieu et vers Dieu. Les anges sont des compagnons de service. Sont des serviteurs de Dieu pour le bénéfice de ceux qui appartiennent à Dieu. Mais on ne doit pas aller plus loin. À l'inverse de ça, il y en a qui vont trop loin de l'autre côté. Et là, les chasseurs de démons entrent peut-être dans cette catégorie-là. Ils ont une attitude dangereuse, un peu de mépris et d'arrogance à l'égard du diable et des anges, parce que des anges mauvais, parce qu'ils se pensent au-dessus. Ah, nous, on est sauvés, on a l'Esprit de Dieu, nous. On est au-dessus des démons et des anges, puis on leur parle, écrasez-vous, écrasez-vous. Regardez ce que je dis, là, une mise en garde très sévère. L'archange Michel, en passant, là, lui, c'est le chef des anges, hein, c'est le plus puissant de la gang. L'archange du groupe, pardon. L'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire, ça dans la Bible du Semeur, j'aime beaucoup, que le Seigneur te réprimande. T'es pas un méprisant, insultant. Il y a des gens qui parlent du monde spirituel, mais de façon comme s'ils se moquaient d'eux. Et vous savez pas ce que vous faites, là. Ça se peut que Dieu, pour vous donner une bonne leçon, si vous avez une mauvaise attitude envers le monde spirituel, qui permette que le monde spirituel mette sa main sur vous. Et là, vous aimerez pas ça, hein? Alors, s'il vous plaît, tenez-vous loin de tout ça. Ayez une bonne attitude envers le Seigneur, d'humilité envers lui. Et on ne prend pas autorité sur le monde spirituel mauvais pour se prendre, ouais, je ne sais pas pour qui, mais bref, il faut avoir une attitude équilibrée. Il faut être conscient de l'existence et de l'activité du monde invisible. On en est conscient et pour moi, c'est suffisant. Ça s'arrête là. Je suis conscient. C'est suffisant. Toute notre attention et nos prières devraient être portées uniquement vers Dieu le Père et vers son Fils, Jésus-Christ. OK. Les ressources que je propose à la fin, chapitre 8 de théologie systématique, c'est très détaillé, hein, beaucoup de choses là-dedans, comme le chapitre 22 de Introduction à la théologie de Paul Hans. Et si vous connaissez le grand guide de la Bible de Wilmington, c'est très bien ce qu'on trouve comme information dans la section La doctrine des anges. Je ne connais pas vraiment de bonnes ressources consacrée uniquement à ce domaine-là, sinon que quelques bons livres de combat spirituel. En fait, je pense à MacArthur, entre autres, là, qui remet les choses à l'heure, il me semble, dans les combats spirituels. Ben voilà, mais on a quand même tout dans ces chapitres-là. Alors, pardonne-moi d'avoir été jusqu'à la limite, il est 22 heures, je m'arrête ici.
Merci beaucoup, Gilles, pour cet exposé bien apprécié sur un thème qui suscite beaucoup de questions. Ça ne m'étonne guère. C'est chaque fois quand on le traite au hit parade des thèmes qui suscitent le plus de questions. Alors, comme je l'ai dit, on n'aura pas le temps de répondre à tout, mais il y a quand même quelques questions sur lesquelles on va s'arrêter. La première question sur laquelle je vous propose de vous arrêter, c'est celle-ci. Certaines personnes disent qu'une maladie psychologique, mentale, j'ajouterais même voire une maladie tout court, chez une personne chrétienne est une emprise démoniaque. Qu'en penses-tu?
À nouveau, il ne faut pas penser à possession quand on dit ça. Comment répondre sagement à ce point-là? Je pense que ce qui est important, c'est de ne jamais le suggérer. Et c'est une erreur de faire cela. De suggérer, par exemple, à une personne qu'elle est malade parce qu'elle a péché ou qu'elle est aux prises avec une tourmente démoniaque. C'est de prendre des risques inutiles. Priez simplement pour la guérison plutôt, parce que qui êtes-vous pour penser ou savoir exactement que c'est le cas? Je ne dis pas que c'est impossible que ce soit le cas, puisque il y a peut-être des occasions, en fait, il y a clairement des occasions où on voit des infirmités physiques et peut-être même mentales dans l'Écriture qui sont le résultat d'une activité démoniaque, mais dans chaque cas, à l'exception peut-être de Paul, voilà, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la nature de sa tourmente, mais les cas de possession démoniaque, c'est toujours d'un cas d'incroyant, hein? Jamais, jamais, jamais de croyant dans les Écritures. Mais voilà, de faire l'équation est dangereux et ça peut traumatiser des gens et les blesser à tout jamais. Donc, ne faites pas ça. Vous n'avez pas cette autorité pour faire ça. Et Dieu, à ma connaissance, n'a jamais donné le discernement à personne pour aller à cette limite de dire, je sais, ta foi maintenant, elle est faible ou tu es malade ou tu vas pas bien parce que c'est un démon qui fait ça. Moi, franchement, là, non. Moi, en tout cas, jamais je vais faire un truc pareil. Je ne veux pas détruire des gens. Je veux les secourir. Et je sais que celui qui peut leur faire grâce et les délivrer, c'est le Seigneur. Alors, je ne veux même pas suggérer que ça puisse être le cas. Dieu le sait, lui.
Merci Gilles. Encore pour cette réponse, encore une question. Est-ce que l'activité démoniaque était plus importante à l'époque de Jésus que de nos jours?
Oui, je réponds rapidement parce que ça ne fait aucun doute qu'il y a eu une recrudescence terrible d'activités démoniaques. La raison est très simple, Jésus était sur la terre. Et non seulement Jésus était sur la terre, mais il était là pour accomplir la rédemption qui allait sceller le sort final de tout le monde spirituel mauvais. Et le monde spirituel mauvais le savait, ils avaient peur. Ne nous envoie pas dans l'abîme, hein. C'était la prière, la requête des démons à Jésus. Alors oui, il y a effectivement une telle manifestation démoniaque, probablement hors de l'ordinaire, probablement, quoique dans la culture juive, il y avait aussi, mais des prétentions à ce sujet, hein, et pas toujours juste, hein, très souvent fausses. Mais malgré tout, le concept était inné dans la pensée juive qu'ils étaient, en tant que peuple de Dieu, ouais, attaqués par le monde spirituel mauvais. Le livre de Job est dans leur héritage littéraire. Ils avaient conscience de cette réalité spirituelle. Et si on voit une telle montée d'activité, il ne faut pas se surprendre, Jésus est là. Et il vient accomplir la rédemption.
Que penser encore de l'expression démonisée qui semble être une autre définition de la possession?
Ben, démoniser, c'est une traduction hyper littérale de Daimonizomai en grec, qui est le verbe démoniser. C'est comme si on lui donnait une translittération française, en fait. Mais on parle de la même chose. Démoniser, c'est d'être habité par un démon. Donc, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a des gens qui utilisent le langage biblique complètement hors contexte et puis qui vont dire, par exemple, un chrétien peut être démonisé. Non, pas du tout. C'est la même chose qu'être possédé d'un démon, il ne peut pas. Le langage biblique, c'est de dire un chrétien peut être tourmenté et attaqué par le monde spirituel mauvais, mais pas au-delà. Et faites attention avec les fameux mots bibliques hors contexte et utilisés dans le contexte moderne.
Oui, merci encore pour cette réponse. Tu as insisté aussi sur voilà, la présence de Dieu, le recours à Dieu, à Jésus-Christ. Que penses-tu de ce passage des Écritures qui dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger?
Bien, ce n'est pas le résultat d'une prière, c'est le résultat d'une promesse de Dieu. Depuis le départ, Dieu a promis que l'ange de l'Éternel conduirait le peuple d'Israël et serait toujours là avec eux. Il s'est présenté sous l'identité du commandant ou chef de l'armée de l'Éternel à Josué déjà à l'entrée du pays de Canaan. Et voilà, c'était le résultat d'une promesse. Et donc, Dieu accomplit sa promesse. Il avait promis à Israël que l'ange de l'Éternel, qui est Jésus préincarné, hein, soulignons-le, là, c'est un ange différent de tous les autres, là. Eh bien, il avait promis et il a accompli sa promesse. Ce n'est pas le résultat d'une prière. Mais par contre, à la connaissance de cela, peut-être parce que là, ça me revient, il y a peut-être un verset où Israël a demandé à Dieu l'assistance de cet ange. C'est possible. Là, j'y vais de mémoire, là, mais même si c'était vrai, c'est basé sur la promesse de Dieu que son ange accompagnerait. Donc, peut-être que dans ce cas-là, c'est justifiable, mais ça vaudrait le coup d'aller plus loin pour explorer cela. Mais là, je n'ai pas les outils nécessaires maintenant. Je m'excuse.
Pas de
Peut-être que vous
problème.
pouvez garder cette question et la reproduire par email pour que je
Oui.
puisse aller plus loin.
Satan est aussi appelé accusateur, on le voit dans le cas de Job. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut toujours se présenter devant Dieu pour demander l'autorisation pour nous, croyants de l'Église, nous infliger du mal?
Oui, apparemment, enfin, j'imagine que oui, puisqu'il cherche qui il va dévorer, puisque les Épîtres font mention assez souvent du diable qui rôde. Enfin, on sait très bien que le monde spirituel, on doit lutter contre. Donc, tout cela suggère que, il y a encore des attaques contre les croyants de l'Église, c'est évident, et ces attaques ne peuvent pas jamais arriver en dehors du contrôle souverain de Dieu.
Merci, Gilles. Je crois on va s'arrêter là. Il y aura encore beaucoup de questions. On va garder ces questions, puis comme on vous l'a dit, elles vont être répondues dans le cadre des emails qui vous sont envoyés régulièrement avec des informations. Et
Peut-être juste
puis.
une parenthèse ici, Nathalie, si tu permets. Pour le dernier cours, ça m'a pris 4 heures répondre à la dizaine de questions. Il faut quand même que je prenne le temps de le faire. Donc, attendez-vous. Je vois qu'il y a à peu près 20 questions qui ne sont pas répondues d'après ce que je vois, là, et peut-être même au-delà. Attendez-vous à ce que ça prenne un petit peu plus de temps. J'ai aussi beaucoup de cours à préparer pour le Québec, là, parce que je repars dès lundi prochain, Dieu voulant. Alors là, je vais peut-être être essoufflé un peu. Ça pourrait s'étirer sur quelques temps, voire quelques semaines même avant que je réponde. Mais d'habitude,
Ah, ben on
c'est
aura la
assez vite.
période des fêtes puisque le prochain cours Biblos sera au mois de janvier. Et
OK.
puis, ça va me permettre de faire la transition toute naturelle avec Marco qui va conclure ces instants. Je vous remercie tous ceux qui ont participé. On avait aussi quelques participants occasionnels. On les salue. On salue aussi nos orateurs prochains. J'ai vu qu'il y avait Marc Chibli qui a fait une remarque très intéressante sur la traduction allemande. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de la lire. François Fréchette, Frédéric Valraven, c'était aussi sympa de vous avoir avec nous ce soir. Et puis, on laisse le mot de la fin à Marco.
Ouais, ben, merci beaucoup Gilles, hein, pour ta présentation. Bon, j'ai découvert deux, trois trucs, j'ai grandi sur d'autres. Et vraiment, j'aimerais vous partager deux, trois trucs que j'ai relevés. Et en même temps que Gilles parlait, j'ai écouté. Et Je regardais deux, trois articles, entre autres sur la systématique de MacArthur que vous pouvez trouver. Je crois que je vais vous envoyer le lien de suite. Comme ça, vous avez l'occasion d'aller lire. Il y a une centaine de pages à lire sur ça qui est très intéressante. Vous pouvez l'avoir en PDF ou en numérique ou en papier. C'est très intéressant de l'avoir. Et donc, deux, trois choses hyper intéressantes, c'est qu'on voit qu'on est dans un monde de péché et que même en cherchant l'aide des anges, nous dévions et nous renions Dieu d'une certaine manière en appelant plutôt ses serviteurs et les créatures de Dieu plutôt que lui. Donc c'est lui qui les a créés, c'est à lui qu'on doit s'adresser et pas aux anges. Donc j'ai aussi beaucoup apprécié l'illustration que tu as donnée lorsque tu faisais de la mécanique avec ces difficultés que Dieu permet. En prenant l'exemple du verset et que je ne m'enorgueillisse pas, que Paul pouvait écrire de l'extraordinaire révélation qui nous a été donnée et que c'est comme une écharpe que nous avons dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter afin que je ne m'enorgueillisse pas. Mais on peut voir que la suite du passage, c'est ma grâce te suffit. Donc c'est Dieu dont il est fait mention, cette grâce que Dieu nous donne, c'est d'être et de lui faire confiance à lui plutôt que rechercher des présences surnaturelles qui pourraient nous aider. Merci, très bonne soirée à vous et bonne fête de fin d'année. Au revoir.
Au revoir à tous.